Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Voici un crime commis dans le huis clos d'une famille. Une famille qui, depuis 70 ans, cultivait une haine cuite et recuite. La famille de Christiane Roger, 83 ans, que l'on retrouve un matin étranglée dans son lit, chez elle, au Perreux-sur-Marne. Pour le débrief tout à l'heure, je ferai appel à celle qui a porté l'accusation au cours du procès devant la cour d'assises, l'avocate générale Christine Lahy. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Oudouard. La réalisation est signée Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Jacques est auxiliaire de vie en banlieue parisienne. Il s'occupe de personnes âgées, il leur fait leurs courses, leur cuisine, leur repas. Et donc un matin de novembre 2012, vers 9h30, il appelle l'une des vieilles dames dont il s'occupe, Christiane. Christiane Roger, 83 ans. Pour savoir de quoi elle a besoin avant d'aller à la supérette du coin. Pas de réponse. Ça l'inquiète. Et donc il prend le RER A et il va chez elle au Perreux-sur-Marne, dans la jolie banlieue est de Paris. Quand il arrive devant sa maison, rien ne le rassure vraiment. Les volets sont fermés et c'est anormal parce que Christiane est une lève-tôt. Qu'est-ce qui se passe? Il ouvre la porte. Madame Roger? Madame Roger, vous êtes là? Il fait le tour de toutes les pièces de la maison, une par une. Il arrive dans la dernière pièce, sa chambre. Ouf! Ouf, elle est là, elle dort. Il s'approche. Elle a les yeux ouverts et la bouche aussi. Il prend son pouls. Sa main est glacée. Elle est morte. Christiane est morte. Lui, sur le moment, il pense qu'elle est morte dans son sommeil, une mort naturelle de vieillesse à 83 ans. D'autant qu'il l'a eu au téléphone la veille au soir. Il appelle son médecin pour qu'il vienne constater le décès.
Bonjour docteur, elle est là.
Mais le médecin, lui, soulève la chemise de nuit.
Ah, elle a été frappée, hein. Regardez les traces de coups là, là, là. Je dirais même qu'elle a été étranglée, vous voyez la trace là autour du cou? Je peux pas signer le permis d'inhumer, hein. Faut appeler la police. Je vais le faire si vous voulez.
Les policiers arrivent, ils préviennent le procureur et le procureur, naturellement, ordonne une autopsie. Et le légiste confirme.
Étranglement. Et par ailleurs, elle a reçu des coups violents. Hein, on a une fracture de la mâchoire et des côtes cassées.
Évidemment, la mort de Christiane Roger, dans ces conditions, suscite beaucoup d'émotions au Perreux-sur-Marne. Elle a passé toute sa vie là, dans cette maison. Beaucoup de gens la connaissaient, surtout dans son quartier, qui est un lotissement privé assez chic, et même très chic, très bourgeois. Le parc du Perreux. Si on s'installe dans ce genre d'endroit, c'est pour la sécurité. Or ça ressemble à un cambriolage qui a mal tourné. Les premières constatations faites par la police vont dans ce sens. La porte d'entrée et la porte du garage ont été fracturées. Et ils n'y sont pas allés de main morte, il y a un morceau du chambranle sur le sol dans l'entrée. Avec une bizarrerie tout de même, le verrou a été arraché. Et ensuite on l'a remis en place. On a donc affaire à un cambrioleur bricoleur. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Mystère. Bizarre aussi, le trousseau de clés de la maison, il a disparu. Donc on a affaire à un tueur qui, après avoir commis son forfait, ferme la maison avant de partir. C'est rarissime. Alors est-ce que des choses ont été volées? Eh bien, a priori, non. Il n'y a pas de désordre particulier dans la maison et les bijoux de Christiane sont à leur place. Donc ça n'est pas un cambriolage qui a mal tourné. On est venu pour la tuer, et uniquement pour la tuer. La brigade criminelle de Paris, le fameux 36 quai des Orfèvres, va devoir trouver qui et pourquoi. Assez rapidement, les policiers du 36 s'aperçoivent que Christiane avait sa petite célébrité sur Internet, sur YouTube. Une vidéo dans laquelle on la voit et on l'entend surtout, rudoyer des ouvriers. Cette vidéo remonte à l'époque où sa voisine a voulu construire un mur mitoyen. Elle est allée voir les ouvriers pour les engueuler. Et ils l'ont filmé.
Et on fait le trou, on fait le trou chez moi.
Laissez-moi terminer.
Il n'en est pas question.
Mais laissez-moi terminer, je vous explique. Le mur, il va être là. Donc, oui.
Vous devez ici, pas là, c'est tout. Il est dedans, hein.
Mais non,
celle-là, avec ses recommandés, elle peut se les foutre au cul, hein. Nadine Mouk, Nadine Babek,
c'est quoi ça?
Je savais pas. Bah, ouais. Allez apprendre.
Ah, moi, ouais, je suis italien. Mais...
Dans cette vidéo, on la voit en robe de chambre, reboucher avec sa canne le trou que les ouvriers de ses voisins ont creusé pour bâtir le mur. Elle avait du caractère, Christiane. Un sacré fichu caractère, un caractère de cochon et un vocabulaire de charretier. Un de ses voisins, un autre, raconte qu'un jour il s'est garé devant chez elle. Oh l'imprudent! Elle est allée rayer sa voiture avec des clés. Donc c'était une vieille dame, un peu acariâtre. Mais à 83 ans, on lui pardonne? Est-ce que vous êtes sûr de ne pas vieillir comme ça? Moi, non. Alors est-ce que cet épisode, dont les rigolards de YouTube se sont emparés, a quelque chose à voir avec le crime? Des représailles. Dans la vidéo, qui est assez récente, elle traite les ouvriers de tous les noms. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui a voulu se venger? On dresse la liste des ouvriers présents ce jour-là. On les interroge un par un. Ils ont tous un alibi. C'était une fausse piste. L'enquête de voisinage ne donne rien. Personne au parc du Perreux n'a remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. Et donc les flics se retrouvent sans aucune piste. Mais pas pour longtemps. Parce qu'une amie, l'une des rares amies de Christiane, a une piste à leur proposer. Elle vient les voir d'elle-même.
Je voulais vous parler de Chantal, la petite fille de Christiane. Je lui parle de temps en temps au téléphone. Eh bien récemment, elle m'a dit mot pour mot, tu verras un jour je la tuerai.
Et vous avez cru à ces menaces, madame ?
Ah bah, je lui ai dit, arrête de plaisanter, on dit pas des choses comme ça. Elle m'a répondu, tu verras. Véridique, hein? Après quoi, elle m'a raccroché au nez. Alors au départ, c'est vrai, j'ai cru que c'était des paroles en l'air, et puis quand j'ai appris sa mort, je me suis dit, faut que j'aille le dire à la police.
La grand-mère et la petite fille étaient en conflit.
Oh! Christiane et Chantal se détestaient depuis toujours. Elle l'a détesté autant que sa mère Françoise l'a détesté. C'est une vieille histoire, vous savez.
Et l'histoire, la voilà. C'est une vieille histoire, effectivement. Christiane a été violée pendant la guerre par un soldat allemand en 1944. Et de ce viol est née Françoise, la mère de Chantal. Et quand elle est née, Christiane l'a rejetée. Et on peut la comprendre. Le fruit d'un viol. Et Françoise, évidemment, s'est sentie rejetée. Elle s'est mise à détester sa mère, à la haïr. Et quand elle-même a eu un enfant, Chantal, elle lui a en quelque sorte transmis cette haine. Et donc là, il y a une piste, une vraie piste. La petite fille qui tue ou fait tuer sa grand-mère pour en quelque sorte venger sa mère du désamour de Christiane. Si c'est ça, c'est vertigineux, vertigineux. Et c'est douloureux d'un bout à l'autre. Car dans cette histoire, si c'est ça qui s'est passé, il n'y aurait que du malheur, du début à la fin. Du viol à l'assassinat. Là-dessus, les policiers découvrent qu'il y a une affaire d'héritage. Le mari de Christiane, Charles, est mort il y a 7 ans, en 2005. Et à sa mort par testament, il a légué ses biens à 50-50 à sa femme Christiane et à sa petite-fille Chantal. Car entre-temps, Françoise, la fille de Christiane, est morte d'une leucémie. Sur le papier, il n'y a rien de scandaleux. La moitié pour sa femme, l'autre moitié pour sa petite-fille. Mais le vieux Charles a-t-il réalisé avec ce testament qu'il a déposé une bombe à retardement? Parce que pour que Chantal touche sa part, il fallait vendre la maison et partager en deux. Et vous qui l'avez entendu tout à l'heure, Christiane, gueuler comme un putois parce que ses voisins voulaient faire construire un muret mitoyen, d'après vous, est-ce qu'elle a accepté de vendre sa maison pour donner sa part à la petite Chantal que par ailleurs elle déteste et qui le lui rend bien? Eh ben non. Non, bien sûr, depuis 7 ans, elle refuse de vendre la maison. Et depuis 7 ans, c'est la guerre entre la grand-mère et la petite fille. On le tient, le mobile. D'autant qu'à côté de ça, Chantal est aussi l'héritière de sa grand-mère. Et donc en la tuant, non seulement elle règle radicalement le conflit autour de l'héritage du grand-père, mais en vérité, elle hérite de tout. À propos de combien est-ce qu'on parle ? En 2012, la maison bourgeoise du parc du Perreux est évaluée à 600 000 euros. Pas mal. Et donc les policiers se disent, tous les ingrédients du crime sont là. Et encore, vous ne savez pas tout. Je vous ai dit que c'était la guerre entre la grand-mère et la petite-fille. Eh bien, l'expression est parfaitement adaptée. C'était la guerre et l'occupation. La grand-mère ne voulait pas vendre la maison. Très bien. Chantal est venue s'y installer. Mais pas toute seule, hein. Avec toute sa famille. Un matin, le 8 avril 2012, 8 mois avant le meurtre, elle a débarqué chez mamie avec son mari Patrice et leurs 4 enfants. Et des valises, et des cartons, et des meubles. Et vous qui connaissez un peu Christiane, son sens légendaire de la diplomatie, elle a rué dans les brancards. Et vous savez ce qu'elle a fait un jour, la diablesse? Elle a attrapé un couteau de cuisine, et elle a menacé le mari de Chantal. 83 ans. Ils ont eu tellement peur qu'ils sont partis. L'occupation n'a pas duré longtemps. Mais quelle famille! Quelle haine! Il y a eu d'autres épisodes. Un soir, Christiane est rentrée chez elle. Elle a trouvé son portail verrouillé par un cadenas. Impossible de rentrer chez elle. Sacré Chantal! Les policiers de la crime découvrent aussi que, dans la période qui précède le meurtre, Chantal s'est renseignée sur l'état de santé de sa grand-mère. Elle est d'abord allée voir la pharmacienne et ensuite son médecin traitant. Pas parce qu'elle s'inquiétait, hein, parce qu'elle voulait savoir combien de temps il lui restait à vivre. Mais pas de peau, Christiane était en pleine forme. Vous savez ce qu'elle faisait le soir, Christiane? Elle allait manger chez McDo à 83 ans, presque tous les soirs. Quel personnage! Bon, messieurs du 36, est-ce qu'il ne serait pas temps d'interroger la petite fille, Chantal, Chantal Chézot? Elle est convoquée au 36, 3 jours après le meurtre. Et elle arrive toute souriante, sereine, rien qui traduise une fébrilité. Elle se présente comme une bonne mère de famille, elle a 4 enfants, elle vit près d'Agen, dans le Lot-et-Garonne, c'est-à-dire à 800 kilomètres du Perreux-sur-Marne. Et votre mari, madame, Patrice Chézot, et il fait quoi dans la vie? Il est surveillant de prison. Et vous, votre profession? Oh ben avec 4 enfants, ben, je suis mère au foyer. Pas vraiment le profil d'une étrangleuse. Même si face aux policiers, elle ne cache pas qu'elle détestait sa grand-mère.
Madame Christiane Roger, c'était ma grand-mère. Par le sang, je dirais. Mais c'était pas le grand amour, hein. Ça l'a jamais été. Je la considérais pas comme quelqu'un de ma famille. On nous a parlé, madame, d'un différent lié à l'héritage de votre grand-père. Ouais, c'est vrai. Mais, bon, c'était sur le point de s'arranger, hein. On avait rendez-vous chez un notaire avec nos avocats pour régler enfin la question de la succession. Donc les choses allaient se résoudre incessamment. J'avais pas de raison de lui en vouloir. Hein. Jusque-là, Chantal se défend bien. Sauf que les policiers ont découvert que le soir des faits, Chantal Chézeau n'était pas chez elle, à Agen. Elle était à Rosny-sous-Bois, chez des amis, c'est-à-dire à 5 kilomètres du domicile de sa grand-mère. Dites, madame, comment est-ce que vous expliquez votre présence en banlieue parisienne le soir où votre grand-mère est tuée?
Oh, ben ça, c'est un hasard. Je rendais visite à des amis avec mon mari et mes enfants. C'était les vacances de Toussaint. On était chez mon amie Linda. On y va tous les ans, vous savez.
Le soir du 5 novembre, madame, qu'est-ce que vous faites?
Je n'ai pas bougé de chez mes amis. On s'est couché, je crois, vers les 10h, 10h15.
Et le lendemain matin, madame,
on s'est levé de bonne heure et puis on a repris la route d'Agen.
La présence du couple à Rosny-sous-Bois serait donc un mauvais concours de circonstances. Sauf qu'il y a des caméras au parc du Perreux. 67 caméras de surveillance en tout. Et les policiers viennent de les visionner une par une. Et sur l'une des caméras, placée devant le domicile de Christiane Roger, à 21h43, on voit un mignon petit couple passer main dans la main et tourner la tête vers la maison. Et on les reconnaît du premier coup d'œil. C'est Chantal et son mari Patrice. Elle a menti. D'autant que 2 heures plus tard, une autre caméra montre le mari, Patrice, revenant sur les lieux, seul, et enjamber le portail, et pénétrer dans la propriété. Et 1h30 plus tard, on le voit ressortir. C'est lui, c'est Patrice qui a tué Christiane, ça paraît clair.
Madame Chézeau, à dater de cet instant, vous êtes placée en garde à vue dans le cadre d'une information ouverte pour l'assassinat de votre grand-mère. Bien, maintenant, madame, je vais vous montrer une vidéo qui est extraite du système de vidéosurveillance du parc du Perreux. Vous voyez? Ici, là, c'est votre mari, hein? Il est 21h43, vous êtes devant chez votre grand-mère, alors que vous avez dit que vous étiez chez vos amis à Rosny-sous-Bois. Je vous écoute, madame.
Hein? Oui, c'est vrai. Ce soir-là, après dîner, on a couché les enfants et on est sorti avec mon mari pour aller faire une balade, pour prendre l'air. Et c'est vrai qu'on est passé dans la maison de ma grand-mère. Et j'ai dit à Patrice qu'on n'avait rien à faire là. Et puis on est rentré, quoi.
Bien. Alors je vous montre maintenant une deuxième vidéo qui est captée par l'une des caméras 2 heures plus tard, un peu avant minuit. Vous voyez là? Vous le reconnaissez? C'est votre mari. Il est en train d'enjamber le portail. Et là, très court silence. Elle est coincée.
Bon, c'est mon mari qui a tué ma grand-mère. Mais il a fait ça dans mon dos, j'étais pas au courant.
Vous n'étiez pas avec lui?
Non. On est rentré chez Linda. Je me suis endormi comme une masse. Et ensuite, quand je me suis réveillé, j'ai vu qu'il était plus là.
Votre mari a donc agi sans votre complicité?
Oui. Dans les jours qui ont suivi, j'ai vu qu'il y avait un truc qui coinçait. Il avait un truc sur la conscience. Depuis mardi, il décroche pas un mot. Il est devenu taciturne, renfermé sur lui-même.
Ok, Eh bien, voyons ce qu'il en dit, lui. Patrice Chézeau est interpellé le 9 novembre 2012 à 15h. Et quand il voit arriver les flics...
Oh ben, je suis soulagé de vous voir. Oui, j'ai tué Christiane Roger. Mais c'est un accident. J'avais pas l'intention de la tuer.
Et placé en garde à vue, il s'explique.
Moi, au début, je suis allé la voir pour avoir une discussion au sujet de l'héritage. J'ai vu la lumière allumée, je me suis dit, elle est là, elle est chez elle. Et donc, j'ai enjambé le portail. J'ai frappé, elle n'a pas répondu. Alors j'ai défoncé la porte. Je suis monté dans sa chambre, elle était réveillée, elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais là, espèce d'abruti? Je lui ai dit, il faut que ça cesse. Regarde le mal que tu fais à ma femme, à mes enfants. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a répondu, toi et ta pute de femme et tes bâtards d'enfants, tant que je serai vivante, vous n'aurez rien. J'ai pété les plombs. J'avoue, j'ai disjoncté. Alors je lui ai sauté dessus. J'ai fini là. Par l'étouffer avec l'oreiller. Mais ma femme a rien à voir avec ça, rien.
Il a l'air sincère. Mais franchement, est-ce qu'on vient voir une femme de 83 ans en pleine nuit pour régler une question d'héritage? Est-ce qu'on saute le portail quand on veut discuter tranquillement avec quelqu'un? Sans compter que les policiers ont découvert deux ou trois trucs que je ne vous ai pas encore dit. Les freins de la voiture de Christiane ont été sectionnés. Et les fils du téléphone qui passent au-dessus de la porte d'entrée ont été coupés. Tout ça indique une préparation, une préméditation. C'est pas un coup de sang. Il est venu pour la tuer. Ça paraît clair. Et était-il vraiment seul? Chantal est-elle vraiment hors du coup? Eh bien, pas sûr. Parce que les flics se sont fait remonter la facture détaillée de son téléphone portable et sa géolocalisation. Au moment du meurtre, Chantal est au Perreux-sur-Marne. Elle n'est pas en train de dormir chez sa copine Linda. Et mieux que ça, pendant les 2 heures que Patrice passe chez Christiane, elle lui envoie des SMS et il lui répond. Pendant le crime, ils se sont échangés 50 SMS. Chantal est clairement sa complice. Elle n'est pas sur place, mais elle sait. Elle sait que son mari est allé chez Christiane pour la tuer. Il est décidé de les coller tous les deux dans la même pièce et de les confronter, de voir ce que ça donne. Et là, c'est Chantal qui craque.
Oui. Oui, on est allé au domicile de ma grand-mère pour la tuer, oui, oui, oui. On voulait la tuer tous les deux. C'est pour ça que mon mari a coupé les fils du téléphone. Il a remis la serrure pour faire croire à une mort naturelle.
Et dans la foulée, Patrice Chézeau avoue, lui aussi.
On s'est mis d'accord avec Chantal. Pour dire qu'elle n'avait rien à voir avec le meurtre. Si moi je me faisais pincer, autant qu'elle s'en sorte pour les enfants.
Le 11 novembre 2012, 5 jours après la découverte du corps de Christiane, les Chézeaux, mari et femme, sont mis en examen pour assassinat et complicité d'assassinat, et écroués, tous les deux. Au cours de l'instruction, les policiers du 36 quai des Orfèvres s'aperçoivent que le couple était au bord de la banqueroute. Et pourtant, ils disposaient de 3500 euros par mois pour vivre. Mais ils dépensaient beaucoup plus. D'abord Patrice, le surveillant de prison, est un malade du jeu. Il a englouti beaucoup d'argent au casino. Et puis, ils aiment les belles voitures aussi. Ils en ont 3. Et en plus, récemment, ils se sont achetés un camping-car à 33 000 euros. Et comment finançait-ils tout ça? Par le crédit, pardi. Le crédit conso, le CTLM qui rembourse le Sofinco, qui rembourse le CTLM. Ils en ont souscrit au total pour 90 000 euros. Et ils avaient du mal à rembourser avec leurs 3 500 euros par mois et leurs 4 enfants. Les huissiers venaient régulièrement toquer à leur porte et on venait de les inscrire au fichier des interdits bancaires. Leur seul moyen de se refaire, c'était l'héritage. Les Chézeaux, mari et femme, sont jugés un peu plus de 2 ans après le crime, le 27 janvier 2015, devant la cour d'assises de Créteil. Ils sont renvoyés pour assassinat et complicité d'assassinat. Ils encourent tous les deux la réclusion criminelle à perpétuité. Et en plus, ils cochent toutes les cases aggravantes. Ils ont tué une personne vulnérable, une vieille dame, qui est aussi un ascendant de Chantal, sa grand-mère. Chose assez rare, le banc des partis civils est vide, car personne ne s'est constitué pour représenter les intérêts de la pauvre Christiane. À un moment donné, on passe la fameuse vidéo de YouTube.
Et on fait le trou chez, moi.
Laissez-moi terminer.
Il n'en est pas question.
Mais laissez-moi, c'est tout. Laissez-moi terminer, je vous explique. Le mur, il va être là. Donc, les...
Vous devez ici, pas là, c'est tout.
Et la défense en fait tout de suite un argument. Que voit-on dans cette vidéo? Est-ce qu'on ne voit pas la preuve qu'il était difficile d'engager la moindre discussion avec Madame Roger? Interrogée sur les faits, Patrice Chézeau réfute l'idée de la préméditation. J'ai l'impression d'avoir un panneau devant moi, avec écrit « Assassin de vieille dame ». Je peux pas accepter de passer pour un monstre. J'ai l'impression d'être au tribunal pénal international pour génocide, de passer pour un bourreau. Enfin, il y avait des caméras partout. Je portais pas de gants. Si j'avais prémédité ce meurtre, je serais le roi des débiles. Je suis venu pour lui parler, c'est tout. Et là, l'avocate générale bondit de son siège. C'est pour lui parler que vous coupez les fils du téléphone, que vous fracturez la porte. C'est pour lui parler. Oui, pour lui parler. Et ça, quand elle a dit, tant que je serai vivante, ta pute de femme et tes bâtards d'enfants, vous n'aurez rien. C'est ça qui a déclenché mon geste. Je voulais pas la tuer. Je voulais juste qu'elle se taise. Quant à Chantal, assez vite au cours des débats, s'impose l'idée qu'elle a manipulé son mari, qu'elle lui a fait faire le sale boulot, parce qu'il était amoureux. L'avocate générale, Christine Lahy, attaque son réquisitoire.
Aujourd'hui, je suis Christiane Roger. Le scénario que nous propose M. Chézeau est une belle construction. Mais ça n'est pas la vérité. Le couple que vous allez devoir condamner sévèrement est un couple diabolique, auto-alimenté par la haine. Un couple constitué d'un immature et d'un impulsif, Patrice Chézeau, et d'une femme qui l'a boosté, qui l'a piloté comme un champion, par SMS, toute la nuit du crime, Chantal Chézeau. Dans ce dossier, les deux sont égaux en droit, en sanction et en réquisitoire. Je demande donc pour les deux une peine de 25 années de réclusion criminelle. Je vous remercie. À la fin, ça ne sera pas 25 ans, mais 18. Pour les deux. Lui qui a tué s'en sort plutôt bien, mais pour elle, qui n'est pas présente sur les lieux du crime. C'est très lourd. En prison, les Chézeaux ont fini par divorcer. Et bien sûr, Chantal a été déchue de son droit à hériter de sa grand-mère.
La succession de Christiane et de son mari Charles saute donc une génération. Ce sont leurs arrière-petits-enfants qui hériteront quand ils seront majeurs. Formidable histoire, je trouve assez rare, assez originale, que nous allons débriefer maintenant avec celle qui a porté l'accusation au procès d'assises de l'avocate générale Christine Lahy. Donc vous étiez à l'époque, Madame Lahy, vice-procureure à Créteil, vous êtes aujourd'hui avocate générale en Martinique, vous vous êtes donc levée de bon matin pour être avec nous, merci. Vous avez demandé 25 ans pour les deux, pourquoi 25 et pas perpète qui est la peine encourue?
Ah, parce que quand on fait beaucoup d'affaires d'assises, on a soi-même une espèce de grille de lecture des affaires moches. Et dans la grille de lecture des affaires moches, avec des accusés qui n'avaient pas de casier judiciaire tout à fait parlant, même de mémoire, elle avait un casier néant. Lui devait avoir quelque chose en conduite en état alcoolique, mais c'était rien. Ben on a une grille de l'horreur et perpète, on le réserve, si je puis ainsi m'exprimer, mais à des histoires du type meurtre d'enfant, familicide, quand quelqu'un tue un parent et tous les enfants, et on le réserve aux crimes crapuleux, mais type grand banditisme. Donc après, quand on n'est pas sur perpétuité, on prend... les circonstances de fait, on prend les personnalités, on prend le degré en ce qui les concerne de maturation du projet. Pour moi, c'était un projet qui les avait associés bien en amont dans le temps. Et voilà, j'étais sur 25 ans. Moi, vous savez, je considère toujours que le ministère public qui s'exprime au nom de la société fait de la proposition de peine et que la cour d'assises, dans sa parfaite souveraineté, décide en plus ou en moins.
Est-ce que ça a à voir tout de même un peu, Madame Lahy, avec le caractère épouvantable de Madame Roger, c'est-à-dire le fait qu'effectivement on pouvait la détester? Non.
Non, absolument pas. Et si je puis vous confesser un état qui m'était personnel quand cette vidéo a été projetée, moi ça m'a beaucoup attristée parce que je me suis dit. Cette femme a 83 ans d'existence, elle a au moins subi la Deuxième Guerre mondiale et en conscience pleine et entière. Et voilà ce que le média Internet retient d'elle et résume d'elle, cette scène qui l'a fait passer, ça a été dit plusieurs fois, pour une Tati Daniel. Sauf que c'était un être humain plein de valeurs, avec ses valeurs. Et pour moi, il n'était pas question de requérir, si vous voulez, quand je requiers 25 ans, c'est une peine très lourde, quand même.
Oui, mais alors le résultat, c'est 18. Alors ça, c'est intéressant. Oui. Je note que vous ne faites pas appel de ce verdict, chose que vous pouvez faire. Donc 18 pour un assassinat et une complicité d'assassinat. En tout cas, pour Patrice Chézeau, qui l'étrangle avec ses mains et avec un oreiller, il s'en sort bien.
Ça, je commenterai pas. Ce que je dis, moi, c'est que globalement, quand on fait appel aux assises et côté accusation, c'est quand il y a un énorme divorce entre la peine requise et la peine prononcée. La peine prononcée à 18 ans sur 25 ans de réquisition, c'est pas un énorme divorce. Il y aurait 8 ans d'emprisonnement pour chacun. Évidemment que là, on aurait fait appel. Mais à 18 ans d'emprisonnement, non. En termes d'exécution, ça veut dire que pendant 9 ans, les deux sont restés en prison et n'ont pas eu ni permission de sortie, ni libération conditionnelle. Sur des gens qui évidemment ne sont pas des voyous de grand chemin, c'est quand même pas négligeable, c'est ça que je veux dire. Et donc, le jury populaire, la cour d'assises décide de 18 ans, dont acte. On ne pense même pas à faire appel sur une décision comme celle-là.
Madame
Lahy, il y a une culpabilité déclarée.
Alors vous teniez, vous l'avez dit lors de votre réquisitoire dans cette affaire, à ce qu'ils prennent la même peine chacun. Mais est-ce que c'est la même chose de vouloir la mort de sa grand-mère à cause d'une haine recuite, le désamour qu'a vécu sa propre mère, et d'étrangler une femme de 83 ans dans son lit?
Alors déjà, l'argument de droit, c'est que le complice est puni comme l'auteur principal des faits. Ça, c'est la loi qui le prévoit. Et donc la peine encourue est identique. Il n'y a pas de bémol parce qu'on n'est pas là, parce qu'on n'a pas touché le cadavre, etc. Il n'y a pas. Le deuxième point, c'est que dans une dynamique comme celle-ci, ce couple, moi j'ai analysé que madame était inéluctablement et indubitablement le moteur. Si elle n'avait pas voulu cette histoire-là n'aurait jamais eu lieu et madame Roger serait morte de sa belle mort. Donc qu'est-ce qui est le plus important, celui qui est à la tête de ce projet, celui qui va stimuler, je l'ai dit quand j'ai requis, stimuler son champion, lui dire qu'elle lui donne des cigarettes, l'encourager, bref, faire que dans ces moments où ce monsieur aurait pu se désister et arrêter de faire cela et ça se serait terminé par une violation de domicile, qui aurait peut-être même pas été poursuivie vu le contexte, elle est là. Et avec l'amour qu'il peut lui porter, effectivement, il se sent presque obligé de faire ce qu'il fait. Et c'est vrai qu'il tue salement. Je suis d'accord avec cette analyse. Je me rappelle l'avoir dit. Il l'a tué salement. Il s'y est repris à plusieurs fois. Il y a eu de la lutte. Cette femme s'est vue mourir et a sûrement vu de qui elle mourait. Mais il n'empêche que s'il n'y avait pas eu la conjonction lui et elle, elle et lui, il n'y aurait pas eu l'effet. Et à partir de là, la responsabilité qui en découle, pour moi, elle est identique.
Alors cette histoire de haine recuite pendant presque 70 ans, au moment des faits, qui remonte à 1941, Christiane qui aurait été violée par un soldat nazi, est-ce que d'abord on est certain de cette histoire? Ou est-ce que ça n'est pas une... Parce qu'elle n'est plus là pour raconter, et la seule qui puisse raconter, non, au final, c'est Chantal.
Exactement. Et moi, si vous voulez, c'était. Je comprends que on s'intéresse à cette dimension-là parce qu'on arrive à pourquoi tant de haine. Mais ce qui m'intéressait moi en tant que magistrat en charge de l'accusation, c'était de savoir ce qui les avait motivés dans l'immédiateté. Que les gens ne s'aiment pas, ils ne conduisent pas nécessairement à ça. Et ce qui m'intéressait plus, sans prioriser, sans minimiser cette haine, mais pour expliquer les faits, ce qui m'intéressait, c'était le contexte économique et financier que vous avez évoqué, et donc cette dimension crapuleuse, parce que on tue tout simplement pour hériter plus vite, et ça, c'était ce qui était, pour moi, le cœur de ma procédure, le cœur de l'explication de ce crime.
Il y a quelque chose qu'on peut dire, c'est quand même, ce sont de très mauvais tueurs. Ils pouvaient imaginer, puisqu'en plus ils y ont vécu quelque temps, qu'il y avait des caméras vidéo dans un lotissement privé, bourgeois, au Perreux-sur-Marne.
Peut-être, oui, mais quand même, je vous l'avez rappelé, la brigade criminelle a quand même dû investiguer un certain temps avant que de tomber sur eux. On est allé plus ou moins soupçonner d'autres personnes dans les proches immédiats et quotidiens de Christiane Roger. Donc on a fini par les confondre, mais ça n'a pas été si évident. Ils se sont défendus jusqu'à ne pas assumer l'intégralité de l'acte. Donc c'est pas si grossier que ça. Il y a eu une mise en scène. Il y a eu objectivement des déclarations qui pouvaient, pourquoi pas, être entendues si ce n'avait été le résultat criminel final. Oui, je suis montée, je suis rentrée, je voulais m'expliquer. Il l'aurait cogné, il l'aurait juste secoué, il l'aurait... Voilà, vous voyez, elle serait restée en vie. Les choses n'avaient pas la même allure. Là, quand même, c'est lourd.
Une question à nouveau sur la vidéo YouTube. J'ai trouvé un peu choquant, moi, quand on la diffuse à l'audience. Vous me direz peut-être votre avis ou pas. Vous êtes magistrate, vous n'avez peut-être pas toute latitude. Mais diffuser cette vidéo, qui au fond ne sert qu'à démontrer que la victime était acariâtre. Une vidéo qui, par ailleurs, c'est un débat très contemporain, est une vidéo volée, illégale, tournée dans une enceinte privée qui est celle de sa maison. Était-il nécessaire, franchement, de la montrer ?
Alors, je vous ai dit toute ma tristesse et mon déplaisir à voir cette vidéo.
Donc vous pensez la même chose que moi.
Je confirme qu'à titre individuel, à titre de magistrat individuel et en charge de l'accusation, je n'ai pas aimé voir cette vidéo. En revanche, l'exercice des droits de la défense, et c'est la défense qui la sollicite, fait qu'à la cour d'assises, on doit tout mettre sur la table. Et on doit donc tout voir et tout entendre, parce que c'est l'oralité des débats. Mmh. Et donc, qu'une défense, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, qu'une défense vienne dire « je veux montrer cette vidéo parce que, ben oui, je vais montrer qu'avec cette femme, on ne peut pas discuter », c'était légitime du point de vue des droits de la défense, et donc je n'avais rien à dire. J'aurais estimé que c'était indécent, que c'était attentatoire aux mœurs. Oui, je me serais levée, mais là, en l'occurrence, non. C'est une scène de la vie quotidienne où on voit cette vieille dame avec béquilles aux prises avec quelques ouvriers moqueurs.
Une dernière question. Vous commencez votre réquisitoire par cette phrase « Je suis Christiane Roger ». Est-ce que c'est parce que vous vous sentez un peu porteur de ce que ne peuvent pas faire les parties civiles puisqu'il n'y en a pas ? C'est-à-dire la représenter un peu à ce procès ?
C'est exactement cela. J'ai essayé de donner corps et vie à cette dame pour éviter qu'on ne se rappelle d'elle que cette vidéo. Ça, c'était mon devoir en tant que magistrat représentant la société. Et donc, en l'absence de partie civile, le procès avait... Il n'y avait personne pour la pleurer, en quelque sorte. Alors, je ne vous dis pas que j'ai pleuré Christiane Roger, mais j'ai essayé de faire que, du point de vue de la société, on se rappelle d'elle autrement par cette vidéo. Il y a une chose que je veux vous rappeler, nous étions tous Charlie à l'époque, et ça m'est venu comme une évidence quand j'ai démarré mes réquisitions.
Merci beaucoup Christine Lailly, avocate générale aujourd'hui en Martinique, à l'époque avocate générale devant la cour d'assises de Créteil. C'était intéressant hein, parce que on a souvent de l'avocat général l'image de quelqu'un de dur, de caricatural presque. Et on a là la preuve qu'il y a des avocats généraux qui ont une vraie réflexion aboutie sur le dossier. Merci infiniment.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.